Gameblogueuses, Gameblogueurs, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Avec moi aujourd'hui, nous avons le très souriant Julo.
Salut, ça va?
Bah oui, super. Tu nous fais pas un petit ouais, salut?
Ouais, salut les amis.
Nous avons le tout aussi souriant Romain.
Salut.
Et encore plus souriant Rudy.
Bonjour.
Et on va vous
tous
expliquer pourquoi dans quelques instants. Aujourd'hui, podcast
pourquoi
100% jeu. Parce que c'est une bonne semaine de jeux
ah
vidéo. Enfin, presque. Je vais vous faire le sommaire immédiatement, puisque nous allons vous parler de Mafia 3, la grosse sortie, une des grosses sorties de ce mois d'octobre sur PS4, Xbox One et PC. Ben voilà, il arrive, il est arrivé même ce vendredi 7 octobre, et je vais vous expliquer pourquoi il n'est peut-être pas à la hauteur des attentes qu'on avait placées en lui. On parlera ensuite de Persona 5. Est-il déjà, avant même la sortie de Final Fantasy XV, le RPG de l'année? Ah, on va pas se prononcer tout de suite, Rudy va vous expliquer ça juste après, et on finira avec Gears of War 4. Est-ce que ça va dérouiller bébé? Je te pose la question Romain, mais
ouais,
je te poserai.
Ouais mec, ça a dérouillé bébé.
On va y répondre tout à l'heure, mais avant ça...
Je peux plus parler.
Voilà, alors une bonne semaine de jeu, ça fait qu'on est un peu fatigué, et du coup on a plus de voix. Donc, pour commencer, évidemment, comme chaque semaine, nous allons faire un petit détour par les win et fail, et pour changer, c'est Romain qui va nous faire le win.
Eh bien oui, cher Plumeau.
Eh bien win.
C'est l'annonce, la confirmation en fait à laquelle tout le monde s'attendait depuis quelques jours. Mm-hmm. Beyond Good and Evil 2. Enfin non, je corrige.
Ah.
Un nouveau Beyond Good and Evil est bien en développement chez Ubisoft Montpellier.
En pré-production.
Avec Michel. Bah là en fait dans le message officiel il n'y avait pas marqué pré-production.
Mais Michel
c'est
lui...
c'est ce que Michel Ancel avait dit. Mm. Là donc Ubi confirme le développement et confirme au passage que l'artwork avec l'homme et le petit cochon sur son épaule c'était bien lié à ce nouveau BGE. Donc
bon,
vu
dur
que
de
c'est
pas
marqué
voir.
Nouveau BGE et pas BGE 2, mm, on peut se demander si c'est une préquelle ou un spin-off, mais en tout cas ils précisent bien, enfin le fait qu'ils n'utilisent pas le 2, pour moi ça ne veut pas rien dire.
Ouais, c'est possible aussi, ouais, effectivement, mais bon, peut-être qu'ils veulent jouer, peut-être qu'ils veulent faire comme Kojima, qu'ils veulent nous mindfucker et qu'à la fin, en fait, ce sera juste le prologue sur un tanker et à la fin on jouera à Raiden, quoi. Ça se trouve, hein. Mais
il y a un cochon bébé, alors on peut se dire que
moi,
c'est
forcément
une préquelle.
Moi je pense que c'est
une préquelle.
Début.
Peut-être que c'est un oui. autre cochon.
Oui. Un autre cochon? Tu penses qu'il y a une famille de cochons
On dit toujours qu'il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. Alors, il y a peut-être plusieurs
Martin,
cochons.
Si tu nous regardes. Très bien, bah écoute, ça fait un beau win, effectivement, parce que ça fait quand même 8 ans. Non, attendez. Oui, si, 8 ans que BGE 2 a été annoncé. Je me rappelle, c'était au Ubi Days, j'étais avec Raon. Là-bas, on dit « Ouah, c'est cool !» et tout.
Ouah, ça a l'air génial.
8 ans plus tard, 7 octobre 2016, toujours pas de jeu. Mais en tout cas, on sait maintenant qu'il y a un nouveau BGE.
Et que t'es vieux.
Ouais, ça, j'ai encore quelques jours avant d'être ouais. vraiment vieux. Et toi, t'as encore quelques jours aussi avant d'être encore plus vieux.
Mais moi, bon. Je m'approche du moment où t'es super vieux, tu sais. La bascule.
Ouais, ça va être dur, ça. Hein.
C'est l'année prochaine.
Ouais.
Mmh. Disons
ah,
que
c'est chaud. Hein.
Ouais.
Ah, ça va, tu le vis bien quand même. Mais...
Non, pour l'instant, ça va.
Ah, non, mais parce que moi, je déprimerai à ta place.
Bon, ta gueule.
Je vous parlais des deux vieux du Muppet Show la semaine ouais. dernière. Ils sont de retour cette semaine.
Ouais, on nous a éloignés comme ça, c'est un peu plus compliqué.
Mais en tout cas, la checklist des jeux. Des arlésiennes on va dire diminue de mois en mois parce que c'est vrai que maintenant Last Guardian c'est bon, Shenmue 3 c'est
oh là,
bon,
FF15 ça va être bon,
FF15 c'est bon,
le remake d'FF7 c'est bon,
voilà, Duke Nukem aussi qui est
Duke
sorti,
Duke Nukem Forever a fini par sortir, j'en oublie un bon qui m'échappe,
peu
importe, là il reste Half-Life 3. Et il doit en rester un autre que j'oublie aussi, mais la liste est quasiment bouclée maintenant.
Bah, Rival School 3, moi je le vois toujours
pas
arriver.
C'est pas une arlésienne, ça, il a jamais été annoncé.
Oh, je fais ce que je veux. On va passer au fail maintenant, Julo. Et c'est pour toi le petit fail de la semaine parce qu'il est très drôle.
Alors, le fail de la semaine est attribué à Bethesda.
Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Bah, ils ont fait un truc super chelou.
Ils nous ont confisqué des piles.
Non. Ils nous ont empêchés de faire un sujet vidéo. Non, c'est pas ça. En fait, Bethesda a annoncé il y a peu qu'il y aurait un grand concert Skyrim.
Ah oui, à Londres.
À Londres, voilà.
Ah.
Au Palladium, ça s'appelle, je crois, cette salle. C'est bien ça.
Ouais,
le
novembre,
London Palladium. Ouais, voilà, tout à fait. Le 16 novembre prochain.
Ouais.
Sauf que en fait, ils n'ont pas prévenu le compositeur officiel des musiques apparemment. Il était très étonné, qui a dit "Méfiez-vous, je suis absolument pas au courant." Donc en gros, il a déclaré voilà, le concert n'a rien à voir avec moi. Il n'utilise pas mes partitions originales. Voilà.
Uh-huh.
Bah c'est un peu chelou. Alors comment ils vont faire? Bah il dit, ils ont dû retranscrire ce qu'ils entendent d'oreille à partir de mes enregistrements. Je sais pas, un truc comme ça. En tout cas, il a dit "Méfiez-vous, moi, j'y suis pas." Il s'appelle Jérémy Soul, bien sûr.
Ouais.
Il a fait
il
des trucs.
Et
il est saoulé, voilà. Merci de m'avoir piqué ma vanne juste avant que je la fasse. Elle était préparée de longue date, mais enfin bon.
On
verra.
Tout ce qui est beau, tu le casses.
Ouais, c'est dingue que. Enfin, Comment c'est possible?
Ouais, ouais. On
c'est comme dans Just Dance en fait, ils vont arriver, ça va être des mecs en bon tant pis comme ça.
C'est pas dans Just Dance, c'est dans
Oui
Karaoke You.
Oui, dans tous les trucs qui n'ont pas des licences.
Mais tu te souviens pas de ça dans les années 90 quand t'avais les compilations avec tous les tubes du moment, quand t'allais sur les petits marchés de village ou trucs comme ça, tu pouvais acheter ces mêmes compilations mais réinterprétées.
Ouais.
Genre c'était des artistes.
Surtout en Picardie.
Tu sais, ça coûte. Oui, bah oui. Ah bah ça pour le coup, j'ai bien connu. La compile coûtait genre 3 fois moins cher que le Dance Machine que tu pouvais acheter en magasin.
J'ai jamais connu ça, non.
Ah, c'était pas provincial, c'est pour ça.
Mais toi, tu vois de quoi,
je vois parfaitement de quoi tu parles.
Et c'était dans des réinterprétations de Britney Spears, de la Macarena et trucs comme ça, par des illustres inconnus, et ça sonnait mais tellement mauvais.
Charlie Oleg.
C'est des trucs pour lesquels tu payes pas de licence en fait.
Oui, voilà.
T'as pas de droit à reverser à la SACEM ou quoi que ce soit.
Enfin, c'est quand même chelou de faire un concert sur les musiques de Skyrim sans le. Enfin,
c'est ça.
Sans l'aval, la participation.
C'est un peu fou, ouais.
Du compositeur.
Bon, bah écoute, on ira. De toute façon, t'as déjà pris les billets ou pas encore?
Où tu voudras quand tu.
Bon, bah on va à Londres le 16 novembre pour voir le concert de.
Et on s'aimera.
Oh là là. Si vous imaginez pas ce que c'est
bosser
avec Joe, quand il se met à chanter, qu'il est entre deux voix surtout, quand il vient à Reims. Bon, c'est une autre histoire. Si vous avez lu Joypad, vous comprendrez. On va passer
ça,
maintenant.
C'est super obscur. Ça devient complètement obscur.
Ah ouais, moi je suis super obscur, mais il y a peut-être des gens qui vont comprendre et vous nous direz, hein, d'ailleurs dans les commentaires.
D'accord. Qui a compris ce qu'il vient de dire?
Moi je veux surtout que dans les commentaires les gens nous disent qu'ils ont connu ces compilations pourries.
Ah oui, dites-nous hein, si
province.
Vous êtes Picard.
Mais remarque, non, j'en ai en banlieue aussi. Hein,
ah, ouais. Ah ouais.
Non, non.
Ah, j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence en banlieue et je peux dire qu'à Argenteuil, des compilations au Carrefour du coin, tu les trouvais aussi.
Moi je me rappelle des apartés qui n'a rien à voir, les trucs anniversaires, tu sais, où t'avais
joyeux
anniversaire Romain, joyeux anniversaire.
Allez, c'est des
il y avait ouais. Gianni ou pas?
Alors, je pense pas, non. Je pense qu'il y avait pas, pas du tout, mais on
Romain,
en
je l'ai déjà entendu.
Ah, bah oui, c'était toujours à chaque fois là. La musique parfaite, et quand on est arrivé au prénom, t'avais une voix de robot qui... Romain, comme ça, ouais. Marc. Voilà, j'ai eu l'eau. Voilà. Bon, bref, on va passer.
Vous
évidemment.
Plus personne n'a d'aparté, c'est bon?
Non, c'est non, fini okay. Les apartés. Les Worlds apartés. Alors, on va passer maintenant au point NX de la semaine. Et oui, parce que la NX, on a toujours des
tas
de choses.
Ah merde, il y a un point NX encore cette semaine.
Il y a encore un point NX.
On fait un point NX toutes les semaines jusqu'à la sortie
Jusqu'à l'annonce au moins.
Jusqu'au moins l'annonce.
L'annonce.
Alors, annonce d'ailleurs, on va en parler vite fait. Hein. Quelqu'un a eu le bonheur de dire sur son site qui avait ouvert 3 jours auparavant, je crois.
Blog personnel.
Ouais, son
en
blog
gros.
Perso a émis une opinion. Il a prévu, alors ça se trouve c'est vrai, hein, ça se trouve ça va arriver, que un Nintendo Direct allait être le moment de l'annonce de la NX, un Nintendo Direct le 21 octobre. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 ans, le premier Nintendo Direct est arrivé un 21 octobre. Et donc il imagine lui dans sa tête que ça va être
une date anniversaire,
la date justement à laquelle il y aura l'annonce. Et c'est devenu une rumeur. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai vu partout sur internet ça qui devenait une rumeur, que c'est juste une opinion.
Et c'est là où tu vois à quel point les gens sont en déche d'infos sur la NX.
Il y en a qui font un point NX toutes les semaines dans une émission.
C'est vrai, exactement.
Je sais pas ce qui.
Alors eux, vraiment, ils sont à la rue.
En fait, mon hypothèse, c'est que à partir du moment où tu dis un truc de manière suffisamment bien formulée et avec un minimum de conviction, il y a moyen de le faire passer pour une rumeur ou pour
NX,
surtout sur la NX,
pour un bruit de couloir. Mais finalement, le point NX de cette semaine. Ne concerne
il y a
pas
quand même eu quelque chose de on va dire un peu plus solide cette semaine. Et
donc,
c'est
oui, le Metal Gear. Le YouTuber Boogie avec un chiffre derrière, mais que
on blâme
connu
souvent,
pour
d'ailleurs.
Son personnage. Ouais, ouais, beaucoup de plaintes au sujet du Boogie.
Ouais.
Et, le Boogie.
Alors
ouais.
que les gens
faut pas blâmer le soleil
temps,
ou
faut pas mettre ça sur
le compte de la lumière de la lune ou un truc comme ça. Non,
don't blame it on the sunshine.
Ah, non.
Don't blame it on the moonlight.
Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment.
Okay. Et donc Boogie, qui est plus connu pour son personnage de Francis, qui est une sorte de caricature du gamer, a participé à Retropalooza, donc c'est une sorte de convention aux États-Unis dans laquelle il était invité.
T'es en train de m'apprendre que Francis c'est un personnage?
Oui, c'est pas son.
Ah merde, je croyais que c'était vrai.
Non.
Moi aussi.
Francis, c'est un personnage de Boogie, justement.
Oh merde. Ah bah alors là.
Mais t'es ironique ou tu es sérieux?
Ah non, je suis pas ironique, j'ai vraiment cru que Francis c'était un mec qui.
Non, c'est une caricature, c'est un personnage.
Ah bah il le fait vachement bien.
Ouais, il le fait bien. Et donc il était invité d'honneur de ce truc-là, et donc il a fait une session de questions-réponses avec les gens qui étaient dans la salle, et une des personnes lui a posé une question.
Non, c'est Julo qui me sourit, je sens qu'il va faire un truc là. Il va faire une connerie.
Qui lui a posé une question au sujet de la NX. Et là, le mec, il a balancé. Je sens que t'es pas concentré, Plumeau. C'est assez perturbant.
Tu
me regardes avec ton air souriant.
Ah non, je regarde Julo parce que j'attends le moment où il va faire une connerie. Donc
moi j'ai rien fait d'autre que me taire.
Et donc, quelqu'un a posé une question au sujet de la NX à ce cher Boogie, qui a répondu qu'il avait parlé.
te jure, c'est Julo, il fait exprès de me regarder.
Au revoir.
Il fait exprès. Je suis désolé, hein, si vous êtes premium, c'est... vous pouvez vérifier. Julo se fout de ma gueule ouvertement. Il me fait des œillades depuis tout à l'heure.
J'ai l'impression d'être au collège.
Non, pardon. Vas-y.
Et donc, il a expliqué qu'il avait parlé avec deux personnes qui avaient pu utiliser la NX.
Ah là, putain, Julo, il le fait exprès, je suis désolé.
Il est en train de cacher son visage avec sa main.
Fais pareil, cache mon visage avec ta main parce que.
Alors, on va faire ça entre nous, nos lecteurs et nos blogueurs. Enfin, je vais plutôt cacher Julo parce que c'est lui qui me perturbe.
Voilà, cachons Julo.
Donc, une question au sujet de la NX, et il a expliqué qu'il avait parlé à deux personnes qui ont pu. Mais je le vois dans le retour, c'est infernal.
Tu peux le faire, on a foi en toi.
Qui ont pu utiliser la NX. Une de ces personnes était un développeur de chez Ubisoft. Ouais. Qui a dit que développer sur la NX, c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur. Et l'autre personne, elle a dit de son côté, elle avait pu jouer 20 minutes à la NX. Et elle a dit que, donc ça doit être une personne de l'industrie, qui disait que franchement, vu ce qu'ils ont vu, ils regrettaient de ne pas avoir eu l'idée avant de faire la NX. Et donc,
à ce point-là.
Ouais, et donc Boogie est revenu aussi sur le concept hybride, tu sais, genre d'un côté.
Il fait exprès de se balancer. Je veux dire, c'est infernal, hein. Julo, la prochaine fois, tu es privé de podcast. Je te le dis tout de suite. En tout cas, pas avec moi.
Et donc d'un côté, il dit oui, tu es chez toi, ta NX est branchée sur ta télé. Ensuite, tu la débranches, tu la prends avec toi et tu peux jouer. Et là, il a pris l'exemple d'Assassin's Creed, mais il a pris l'exemple d'Assassin's Creed justement pour pas faire de bêtises, pour pas parler d'un jeu qui a pas été annoncé. Donc il a pris un exemple général. Donc faut pas forcément comprendre par là qu'il y a un Assassin's Creed sur NX.
C'est confirmé sur NX.
Voilà, non,
en
c'est, pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc il parlait, genre, t'as truc branché sur ta télé, quand tu sors, que t'es en déplacement, bah tu peux continuer de jouer sur ta portable. Après, sa formulation était un peu confuse, au sens où il était possible de comprendre que le jeu salon et le jeu portable n'étaient pas le même, c'était pas la même expérience. Mais je pense que c'était un problème de formulation. D'accord. Parce que tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent au sujet de la NX laissait entendre que justement c'est portable ou salon, c'est exactement le même jeu. Mais donc en tout cas, ça a confirmé le côté branché sur
qui avait
télé,
déjà été
portable,
annoncé en plus par le président de The Pokémon Company.
Oui, voilà, mais
plus
c'est
ou
quasiment
moins...
maintenant c'est plus ou moins acquis, quoi.
Il vous n'est aussi, on a parlé pendant l'AG la semaine dernière.
It is a fantastic console,
voilà. It is a fantastic console, absolument. Bah voilà, bah donc le point NX
compliqué
se referme aujourd'hui, vendredi 7 octobre. Nous ne savons toujours rien sur la machine, à moins de 6 mois de sa sortie.
Bon, bah faudrait faire une annonce, nous sommes toujours sans nouvelles.
Ouais,
Nintendo
exactement,
NX.
Avec une alerte enlèvement pour la NX. Bon, bah, on attend toujours des nouvelles. Voilà. Bon, pas de nouvelles en même temps, bonne nouvelle. Hein.
Mais bon. Faut l'espérer.
Espérons, effectivement. Espérons. On va passer maintenant au premier thème de la semaine. Le premier thème de la semaine, c'est un jeu qui sort aujourd'hui, justement, au moment où nous enregistrons ce podcast, c'est Mafia 3 qui arrive sur PC, PS4 et Xbox One. Et Mafia 3, on était tous très enthousiastes à l'idée de l'accueillir. Et je dis tous, sans exception.
Bah moi, la démo, la présentation à laquelle j'avais assisté à l'E3 m'avait bien enthousiasmé. Aussi bien en termes de réalisation que de contexte historique, de déroulement des missions, etc. J'avais trouvé ça super chouette. Camille, après, lui a pu faire le début du jeu, les premières heures... Ouais. Ultra enthousiasmé lui aussi, le contexte historique lui plaisait énormément, si je me souviens bien de ce qu'il nous avait dit. Et là, toi, tu reçois la version test. Enfin non, on va la chercher parce qu'ils nous l'ont pas envoyé. Ça, en principe, quand les éditeurs veulent pas nous envoyer les jeux
en avance,
ils veulent pas nous l'envoyer avant la sortie du jeu, c'est mauvais signe. Donc c'est bizarre, quand on a su ça, on s'est dit bizarre, vu les impressions positives.
Oui, mais
avant,
des fois, on a des autres surprises. Doom, par exemple, n'est pas un mauvais jeu du
oui,
tout.
Voilà,
il a été envoyé après.
Ça, c'est presque l'exception.
C'est politique éditeur.
Ouais, c'est l'exception qui confirme la règle.
2K Games nous envoie souvent les jeux au moment de la sortie. C'était le cas aussi pour NBA 2K17.
Et ça va être le cas pour WWE aussi la semaine prochaine.
Et NBA 2K, c'est pas.
Mais effectivement, on se posait beaucoup la question, mais pourquoi ils ne nous l'envoient pas avant? Ils ont peur de quelque chose?
Surtout, ils nous ont abreuvé de trailers et tout pendant les derniers mois. Quasiment un par jour.
Et bah au final voilà, le fait est que c'est une déception. Alors j'ai pas encore fini la campagne au moment où nous enregistrons ce podcast, mais j'en suis plus très loin maintenant. Donc je peux vous dire que c'est une déception par rapport à toutes les ambitions qui sont affichées depuis plus d'un an maintenant, hein, depuis l'annonce à la Gamescom 2015 et tout ce qu'on a pu voir en termes de trailer, en termes de vidéos de gameplay. Bah, c'est pas exactement le jeu ambitieux auquel on pouvait s'attendre. On parlait déjà de la partie technique, parce que c'est vraiment sur PS4 quelque chose de très important à souligner, à savoir que le jeu est souvent quand même à la rue. Et quand je dis à la rue, c'est quand même parfois de manière assez violente. Alors ça peut être du popping qui au départ.
Regarde, c'est dingue parce que ce qu'on voit là, c'est super beau.
Ah oui, enfin, ce qu'on voit là dans les trailers qui devait à mon avis.
Non, mais c'est
sur
super
des...
beau jusqu'à ce qu'il y ait de la végétation en fait. C'est la
ah,
végétation.
Il y a pas de la végétation. Hein.
Ah bon.
Alors je vous explique. Pour le popping, effectivement, la végétation apparaît quand même de manière assez abrupte. Tardive et abrupte. Ça peut arriver aussi avec des bagnoles. Ça peut arriver avec des affiches en 4 sur 5 qui seront à même pas 10 mètres de toi quand t'es sur la route. Ça peut arriver. Et là, là vraiment, je pense que à ce niveau-là, c'est presque surréaliste, quoi. Ça peut arriver avec une bouteille de vin et des assiettes sur une table, donc, dont tu t'approches et ça apparaît à 3 mètres de toi. C'est-à-dire que il y a des espèces de tares qui sont complètement incompréhensibles du point de vue technique du jeu. Et ça, ça fait partie de quelques exemples. Il y a aussi, alors, le rétroviseur sur PS4, l'affichage du rétroviseur qui s'arrête. Net, on va dire, au bout de, allez, je pense que c'est une visibilité d'à peu près 30 mètres derrière et qui s'arrête.
Après, t'as le vide, le blanc.
Alors, si c'est en journée,
genre
c'est
Wipeout style, quoi. Tu les
moi,
trucs
je pense,
disparaissent.
Ah, mais carrément, même, tu peux dire Ridge Racer PS1, hein, je pense.
Ouais, quand je disais Wipeout, je pensais au premier. Hein.
C'est vraiment, ça s'arrête d'un seul coup. Alors, ça se voit beaucoup quand c'est en journée, parce que effectivement, c'est la couleur du ciel à chaque fois. Et quand c'est blanc, parce que c'est nuageux ou bleu, bah, ça s'arrête de manière vraiment, mais atroce. Par contre, quand c'est la nuit. Bizarrement, ça passe bien. C'est pas trop visible. Et justement, il y a une espèce de truc qui fait que en journée, on peut se retrouver avec des endroits qui ont l'air un peu dégueulasses, même carrément. Hein, même si ça reste quand même un monde ouvert qui est assez grand. Alors c'est pas gigantesque, mais c'est assez grand et surtout très varié. On voit bien les différents quartiers, les différentes ambiances, le quartier français, le centre-ville, le bayou, le nord en haut des collines, les petites zones pavillonnaires, les zones en construction. Bref, tout ça c'est bien bien démarqué. Et du coup, ça fait qu'en termes de direction artistique et même de reproduction, parce que ça, c'est quand même une reproduction, alors on va dire renommée de comment dire, de la Nouvelle-Orléans, absolument. Donc il y a la saveur qui est là, mais c'est vrai que techniquement, il manque un truc, il manque un gros truc.
C'est pas fini.
Ouais, on a l'impression que c'est pas fini, exactement. Et donc ça fait déjà un premier obstacle pour vraiment apprécier un jeu qui, du côté de l'histoire, alors c'est du classique, c'est une histoire de vengeance, mais avec une petite mise en scène plutôt sympa, puis une histoire, un background pour le héros qui, pour une fois, n'est pas un héros blanc, sympa, italien, qui va aller essayer de gagner un petit peu de, comment dire.
J'ai envie de dire Carl Johnson, Grand Theft Auto San Andreas.
Ouais, bien sûr, mais là c'est encore différent parce que ce qui lui arrive en fait, c'est que la mafia italienne, tu vois, le jeu s'appelle Mafia. Tu te dis, oui. Bah, je vais incarner un mec, je vais incarner un nouveau Vito ou un Don Corleone ou un truc comme ça. Et là, en fait, non, tu vas incarner un black, un vétéran du Vietnam, dont la famille, donc c'était les blacks de New Bordeaux qui avait un business à eux.
C'était un groupe mafieux à part entière en fait.
Exactement, comme il y a les Haïtiens, comme il y a les Irlandais, avec lesquels vous allez d'ailleurs vous alliez dans le jeu. Et ben un jour les Rital, ils arrivent, ils disent oh oui c'est cool et tout, et hop, ils flinguent à peu près tout le monde, dont le chef évidemment de cette bande qui était Sammy, qui était un peu le père d'adoption hein, du héros Lincoln Clay. Lincoln Clay qui est laissé pour mort. Alors ça fait un peu Kill Bill, ça fait un peu Payback. Il y a la balle qui a ricoché sur son crâne. Bon voilà. Et ben à partir de là, il va vouloir aller s'occuper en comment dire, le plus salement possible du parrain du coin, donc qui s'appelle Sal. Ça tombe bien. Donc ça va être pour Salvatore. Et donc le jeu aborde cette époque. Donc on est en 1968. Cette époque et ce lieu. De manière, il met les pieds dans le plat quoi, en ce qui concerne le racisme, en ce qui concerne la ségrégation. Alors on va dire le mot en haine pour pas enfin le mot utilisé récemment par une ministre que je sais plus c'était laquelle, c'était Madame Rossignol je crois,
par Luke Cage, enfin dans la série Luke Cage,
oui, Luke Cage. Et Luke Cage, bref, est utilisé à toutes les sauces.
Attends, de quel mot tu parles?
Mais le mot nègre, monsieur.
Le fameux mot.
Ah et oui, voilà. Qui n'est pas, voilà, ils y vont. Il y a pas de souci avec ça. C'est l'époque qui veut ça. Ça, c'est un peu dérangeant quand même, hein, parce que.
C'est le but, je pense. Non
voilà, et c'est nous faire réfléchir. Et c'est bien. C'est pas central, mais c'est bien d'amener. Alors évidemment, il y a aussi une histoire de Simili Ku Klux Klan hein, dans le coin. La plupart des troqués d'un quartier. Vu que vous êtes black, vous pouvez pas y rentrer. Et si vous rentrez, évidemment, bah le patron va appeler la police. Si vous rentrez dans un bar, justement, où il y a les flics, c'est pareil.
Et c'est un des thèmes centraux du jeu, finalement.
Oui.
Est-ce que c'est assez travaillé?
Le racisme, voilà, c'est pas, mais c'est pas, enfin, c'est central et en même temps, c'est pas, tu vois, ça fait un peu comme dans Gettoni avec l'homosexualité de Gettoni dans le DLC de GTA 4. On l'aborde, mais c'est pas quelque chose qu'on va te rabâcher en permanence, en permanence. Évidemment, il y a des cinématiques pour te dire que à cette époque-là, ça se passait comme ça, et les cinématiques. Ce sont soit des phases d'interrogatoire, soit des cassettes d'époque. Et effectivement, on te... enfin, voilà, ça met les pieds dans le plat, ça rappelle les choses, et c'est plutôt bien vu, c'est plutôt bien fait aussi.
Ouais, moi je...
Et ça, ça permet justement d'avoir une ambiance qui est très très sombre. C'est pas même... un jeu qui va déconner comme un GTA.
Et c'est la qualité du jeu aussi, donc cette ambiance, mais cette mise en scène aussi. Moi j'ai fait le début du jeu avec toi,
ouais.
Et j'ai trouvé que c'était en termes de narration, de réalisation, je veux dire, que ce soit les plans de caméra, le montage, etc.
Ouais.
Très cinématographique.
Alors,
et
le début...
hyper prenant dès le départ.
Ouais,
fait.
C'est assez captivant. Mm. Bon, après, malheureusement, quand on rentre dans le jeu en lui-même, ça se dilue un petit peu parce qu'il faut passer à la partie purement jeu, quoi. Et là, de ce côté-là, c'est... Comment dire ? Un peu décevant aussi.
Tu veux dire l'émission en elle-même?
Ouais, il
n'y
a pas grand-chose de nouveau. C'est vraiment le but en fait, c'est de saper les lieutenants donc du parrain italien pour faire venir les caporaux et essayer de les flinguer et du coup obtenir des quartiers les uns après les autres pour les redistribuer.
Très original.
auprès de vos alliés. Et d'ailleurs, quand vous les redistribuez, il faut faire attention à bien être équitable. Sinon, il peut y avoir des petites tensions qui vont se créer.
Ça, pour le coup, c'est un peu original.
Et l'allié d'hier peut devenir l'ennemi.
Alors ça, je ne sais pas parce que j'ai ménagé la chèvre et le chou personnellement dans ma partie. Mais j'ai vu quand même des moments où il y en avait un qui, je me disais, bon, lui, il va me trahir à un moment. C'est pas arrivé. Mais il y a des missions annexes aussi hein, pour soigner un petit peu les relations avec ces personnages et du coup débloquer des bonus comme par exemple passer un coup de fil à quelqu'un qui va faire qu'une intervention policière va s'arrêter tout net, ou encore faire venir des renforts, trois Rital qui vont arriver avec leur sulfateuse pour vous aider un petit peu, ou encore faire venir une camionnette avec par exemple de quoi vous refaire un petit peu en munitions, ou une bagnole aussi pour vous déplacer un peu plus vite. Mais après, les missions de manière générale, c'est beaucoup de va à tel endroit pour tuer quelqu'un et va à tel endroit pour tuer quelqu'un, et c'est décliné en va tuer quelqu'un dans une ruelle, dans un jardin, au fond d'une cour, pas loin du bayou. Voilà, et c'est souvent comme ça, et il n'y a pas d'habillage en fait. Quand c'est comme ça, il n'y a pas d'habillage, et des personnages secondaires que vous allez voir, il n'y a même pas une once de mise en scène. C'est vous rentrez dans une pièce et là oui j'ai un indique machin, mais ça reste une scène fixe vu un petit peu en trois quarts aérienne, avec quelqu'un qui vous dit oui, alors mon indique, voilà, il pourra t'aider, etc.
C'est comme si c'était du copier-coller avec juste un changement de texture.
Et voilà, quoi. Et ça vous débloque dommage, ça. Donc des éléments sur la map où il faut aller saper un petit peu le business d'un des lieutenants. Et au bout d'un moment, une fois que vous avez sapé suffisamment, on va dire une somme d'argent, et ben ça réveille le lieutenant qui va revenir dans un endroit que vous avez déjà visité, donc un entrepôt ou un truc comme ça, et vous devez le flinguer. Et une fois que vous avez fait deux lieutenants, ben vous avez accès au capot, et après le capot, ben voilà, il faut continuer.
Ça a l'air très répétitif.
Et c'est extrêmement répétitif. Alors surtout qu'en plus les scènes d'action, alors c'est on le voyait hein, dans les différents trailers, et je pense que Camille quand il y a joué pouvait s'enthousiasmer de ce côté-là, parce qu'effectivement quand on se lance dans le gunfight, c'est très prenant, c'est viscéral, c'est très violent.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un autre truc qui m'a marqué, c'est effectivement la violence des combats au corps à corps, mais même des armes, du ressenti des armes.
Ah ouais.
Et quand tu tires sur quelqu'un, il s'écroule à terre, mais il est pas mort tout de suite. C'est comme dans tous les jeux, c'est du tir au pigeon, bim bam boum, les mecs ils tombent et c'est fini.
Ragdoll,
alors
et
que voilà, ouais. Alors que là ils se roulent par terre et ils font.
Et tu peux les achever d'ailleurs. Hein.
Et tu peux les achever. Ouais. Voilà, c'est hyper violent.
Ah, c'est extrêmement violent.
Viscéral, c'est...
Et t'as aussi évidemment de l'infiltration. Alors, l'IA est un des problèmes du jeu. Le truc, c'est qu'au début, évidemment, quand l'IA est en petit nombre, et comme ils sont un peu teubés, d'ailleurs, vous pouvez le voir dans cette vidéo qui date hein, quand même, mine de rien, et qui était censée mettre en avant le jeu. Là, on arrive en marchant tranquillement. Le mec est en train de pisser, normalement. je sais pas, on a tous une vision à peu près périphérique et on s'imagine, on peut voir quand même quelque chose arriver sous cet angle-là, mais eux non. Et puis ils ont
un
des
peu
réactions
le lot de tous les jeux du genre.
Ouais, ouais, mais ils ont des réactions parfois complètement débiles. Alors aussi quand vous enfuyez, vous attendez pas à ce que s'ils ont pas de véhicule, ils vous poursuivent. Ils resteront sur place à faire comme ça. Parfois aussi quand vous menacez un indique qui doit vous livrer une information, donc ça, vous vous retrouvez avec votre indique qui a le couteau sous la gorge et qui vous parle, vous pouvez choisir d'ailleurs de l'épargner ou pas pour vous faire du fric immédiatement ou sur la durée. Et ben là, si vous le faites, si vous avez commencé et qu'il y a un autre garde qui arrive à ce moment-là, et ben il vous regarde pendant que ça se passe et il se passe rien. Et voilà, et j'ai eu énormément de moments comme ça où il y a des flottements mais absolument terribles qui vous sortent du jeu. Et c'est un peu dommage parce que, comme je vous le disais, l'ambiance est super travaillée. S'il y avait de la mise en scène comme dans quelques missions de la campagne après la première partie, alors la première partie qui consiste à recruter les alliés essentiellement, hein, les trois alliés, enfin il y en a peut-être d'autres, hein, je vous en dis pas plus, mais recruter vos alliés. La deuxième, c'est vraiment plan de bataille, on y va. Et quand c'est des personnages importants, il y a de la mise en scène, il y a un petit peu d'habillage, il y a même des décors qui sont différents. Alors moi par exemple, je vois, il y a un passage dans une fête foraine qui est plutôt soigné, un autre sur un bateau à vapeur, qui est extrêmement bon aussi.
Ça c'est ce que j'avais vu à l'E3 et j'avais trouvé ça très chouette.
Et ben voilà, il y a le passage de l'hôtel aussi qui est très sympa et qui finit de manière on va dire aérienne avec le monsieur que vous allez flinguer. Il y en a un autre dans une maison où vous allez verser du vin à des gens, il va se passer des trucs un peu spéciaux. Enfin, il y a des endroits où c'est très réussi, mais sinon de manière générale, il manque ce que GTA, bah, disons que tu peux le faire, mais ça devient mécanique, alors qu'il faudrait quelque chose pour propulser un petit peu tout ça comme le GTA le fait, quoi. Tout bêtement, comme GTA ou The Witcher, c'est-à-dire, bah, on met un petit peu de mise en scène, on va parler à un indique, et bah essayons de rendre ça un petit peu plus palpitant plutôt que juste un plan fixe de deux mecs qui sont en train de parler.
Surtout si c'est la même chose à chaque fois.
Bah, d'une, et surtout dans un univers comme la Nouvelle-Orléans qui est tellement réputé justement pour avoir une culture quand même extrêmement prononcée en termes de musique.
Ça tu le ressens, mais tu rentres dans des bars, t'as des gens qui jouent du jazz, la ville qui est quand même assez vide de manière générale. Il y a des moments où tu vas quand même arriver, il y aura des petits petits groupes qui seront dehors en train de jouer,
ambulants, en train de faire un peu
exactement
de musique,
et il y a des fois où vraiment tu te dis ah, oh, putain, j'y crois, j'y suis et tout, et par moment, et c'est souvent le jour d'ailleurs quand ça se charge un petit peu et que du coup t'as l'impression que c'est le moment où ils se disent bon bah on va peut-être mettre moins de monde parce qu'on peut pas mettre de filtre, on peut pas mettre d'artifice pour masquer un petit peu les carences du moteur. Dans ces moments-là, ça, c'est pas très bon, mais la nuit, effectivement, il y a des trucs où t'y crois, voilà. Donc c'est un jeu qui me laisse une impression très mitigée. Maintenant, je vais attendre de finir, évidemment, pour voir si le scénar se développe convenablement. Parce que mine de rien, moi j'aime beaucoup, alors je l'ai déjà dit je crois dans un podcast, mais j'adore les trucs de vengeance. Payback est un de mes films préférés et j'ai envie d'aller justement de voir ce qui se passe à la fin, parce que j'ai l'impression qu'il y a un choix peut-être à faire à la fin, parce que une fois que t'as fini, que t'as eu le mec que tu voulais buter, ça se trouve peut-être qu'on va te dire ah ouais, mais tu veux devenir le parrain de la ville ou tu veux juste devenir peinard maintenant et être tranquille. Donc ça va être un des trucs que je vais aller vérifier une fois que ce podcast est terminé. Mais ouais, je peux pas masquer ma déception vis-à-vis de Mafia 3 malheureusement, surtout sur PS4. Maintenant on va voir sur PC s'il tourne bien, si techniquement il tient la route, même s'il y a évidemment comme d'habitude des
il
petites polémiques.
Que les premiers retours laissent entendre que c'est pas qu'il est pas très optimisé non plus,
Et il est évidemment bloqué à 30 fps, ce qui ne fait pas plaisir au PC Master
aux
Race
esthètes,
comme Poufy ou Camille.
On peut les comprendre.
Ça se comprend. Bref, un
jeu. T'as vu le pognon qu'ils mettent là-dedans, franchement, ils peuvent être difficiles.
Bah ouais, et puis surtout quand tu vois que tout le pognon qui est mis dans la pub pour nous montrer à quel point c'est un jeu génial et beau, etc. Et alors je rappelle, je finis avec un dernier truc. Ne vous attendez pas à ce que Lincoln puisse explorer les profondeurs, il nage à la surface. Ne vous attendez pas à ce qu'il puisse changer de vêtements. Ne vous attendez pas à ce qu'il aille faire du basket, du billard, du tennis, ou je ne sais quoi.
Pas
de mini-jeu, même pas de course à faire, vraiment c'est très basique. Vous faites juste vos missions et c'est tout, avec de la filature classique, des meurtres classiques, des je vais choper un truc classique, je vais faire exploser un autre truc. Il y a des fois, je vous dis, ça se Il y a des trucs un peu différents, mais c'est pas assez souvent, malheureusement.
J'ai juste une petite question plus loin vis-à-vis de l'histoire, parce qu'on parle du côté donc un héros noir dans le sud des États-Unis pendant la fin des années 60, mais il y a aussi un aspect vétéran du Vietnam.
Ouais.
Est-ce que ça c'est abordé dans l'histoire, parce qu'on sait qu'on l'avait vu dans Rambo par exemple, que les vétérans du Vietnam à leur retour à la maison n'étaient pas forcément super bien reçus ou super bien traités, et là la tenue du héros montre qu'il a une veste militaire et tout. Enfin, il l'affiche plus ou moins son côté vétéran.
Ça fait forcément penser, parce qu'en plus il est avec son couteau et il y va quand tu peux choisir. D'ailleurs tu peux choisir, hein. C'est dans les options, vous pouvez choisir d'approcher quelqu'un et de le flinguer, ou et bien comme il faut avec le couteau, hein. Vraiment ça y va, les gorges, les crânes traversés et tout, ou alors d'y aller en les endormant. Mais bref, oui.
Mais est-ce que c'est abordé dans le scénario ou pas?
C'est un peu abordé, oui. Après, c'est pas...
certaines réactions de gens vis-à-vis de toi.
La guerre, de manière générale, est abordée. Mmh. La guerre et la façon dont les Noirs ont été mis, notamment dans la Deuxième Guerre mondiale, ont été utilisés dans la Deuxième Guerre mondiale par les Américains, ça c'est abordé par un autre personnage. Hein. Mais oui, ça fait partie des trucs. On sent qu'il y a une volonté de vouloir quand même dénoncer des choses à travers le jeu, et c'est bien fait, mais c'est pas... on appuie pas dessus en permanence, quoi. C'est pas pour dire oui non mais regardez, mais ils le font, et ils le font bien. Voilà,
très bien, merci pour ta réponse.
Donc maintenant j'attendrai la fin du jeu, et donc pour vous livrer ma note pour le test, mais pour l'instant
senti ta déception,
ça sera pas fameux, malheureusement, hein.
Quel dommage.
C'est vraiment dommage, ouais, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de s'amuser dessus, juste vous attendez pas à des miracles. Voilà. Vous voulez passer au thème numéro 2 pour qu'on se remette un petit peu le sourire ou...
Allons-y.
Bon. Alors, on va passer... Ah bah oui, on va sourire là.
Bah oui, là.
On va sourire avec toi, Rudy, parce qu'on va parler de Persona 5. Alors, Persona 5, Rudy, est-ce que déjà tu peux nous faire un récap de la série?
Alors effectivement, Persona 5, déjà, qu'est-ce que c'est? Plutôt même la
cinquième épisode.
Ouais. Oui,
bravo.
Mais c'est
mais pas vraiment
épisode.
En fait.
Sans l'être, effectivement, ouais. C'est en fait que les séries Persona, ce sont des spin-offs de la série des Shin Megami Tensei, en fait. Donc c'est cette série de jeux de rôle japonais dans des univers un petit peu post-apocalyptiques, où il y a justement tous ces démons qui peuvent venir vous aider lors de combats au tour par tour, c'est excellente, quand même très très dur. Mais bon, et il y a les personas, donc comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la vidéo, beaucoup plus flashy, beaucoup plus beaucoup plus léger quelque part, en fait.
Oui, ça se passe, mais il me semble que le 4 se passait dans un lycée, non, par exemple?
C'est tous les personas, comme le 2, comme tous les personas se passent dans un lycée,
d'accord,
en fait.
C'est toujours un niveau, un environnement scolaire, quoi, à chaque fois.
Exactement. Et donc et voilà, et ce qui fait en fait la force, le sel des personas, la raison pour laquelle tout le monde les adore, enfin en tout cas le petit groupe auquel je fais partie, c'est parce qu'il y a...
Vous avez l'air nombreux, hein, au Japon, 150 000 en première semaine, c'est pas mal.
Effectivement, oui, bon. Je pense qu'on peut être très fiers de nous. Et donc il y a en fait donc, c'est ce côté RPG, mais aussi un côté dating simulation, même simulation de vie de lycéen, qui est extrêmement prononcé, qui prend même jusqu'à 50% en fait de votre temps de jeu, mais qui est simplement excellent.
Parce que le concept des personas, c'est que tu incarnes un lycéen. Mais genre deux jours t'es au bahut, et
exactement,
la nuit tu passes dans un autre univers,
dans un
monde parallèle
où on va attaquer des démons, faire des donjons, et voilà, effectivement, et on doit gérer ces deux vies, et c'est ce qui est extrêmement important. Il faut absolument bien gérer sa vie au lycée, bien répondre en cours pour pouvoir créer des liens avec aussi bien les membres de votre équipe que d'autres, que d'autres personnes. Vous pouvez même avoir justement ces relations amoureuses avec une femme ou plusieurs, hein, on vous laisse faire attention. Et oui, japonais. Et donc, grâce à ces liens, vous allez pouvoir justement devenir encore plus puissant pour après faire vos donjons. Donc voilà. Et finalement, donc la Persona 5, effectivement, le jeu, 550 000 exemplaires vendus.
C'est peu dire qu'il était attendu, hein, au Japon. Hein. Parce que là, tu nous l'as testé en import. Toi, il ressemblait vachement à Vincent de Catherine.
Oui, pourquoi? Parce que c'est exactement le même moteur graphique, en fait, qui avait été utilisé pour Catherine.
D'accord. Et c'est le même univers, de toute manière, puisqu'on le sait, Catherine a lieu dans l'univers de Persona. Et Vincent est d'ailleurs visible dans un des personnages, je ne sais plus où.
Non, alors, Vincent est visible dans le Persona 4, effectivement, dans Persona 4 Golden. Mais donc dans ce Persona 5, non, on peut acheter les vêtements de Vincent. Mais
ah oui, c'est vrai, sans DLC aussi.
Sans DLC. Ouais. Bon, je ne l'ai pas encore vu. Mais effectivement, et ce Persona 5, c'est, à chaque fois, je n'arrête pas de dire que l'année 2016 est l'année du JRPG. Ben, c'est le JRPG, justement, qui c'est le roi du JRPG de l'année 2016. J'attendais Final Fantasy XV. Je n'ai plus rien à faire.
Oh.
Ah, c'est fini.
Oh là là,
c'est fini, c'est bon, non, j'ai Persona 5, je ne veux plus lâcher Persona.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus, finalement?
Qu'est-ce qu'il a de plus, déjà? Le titre, c'est ce dont j'arrête pas de parler, ce sont les menus. Le style.
Alors non, ça, mais... je crois que j'ai jamais entendu. Je sais. C'est mon jeu de l'année parce que les menus défoncent.
Mais oui, parce que les menus défoncent réellement. Regardez la vidéo, les menus dans le combat. En fait, c'est ce style graphique. On est dans une sorte de comic slash manga avec des couleurs, mais bleu vif, enfin bleu rouge vif. Ça pète de tous les côtés. Et donc, enfin, il a. Il y a ces postures, par exemple. Ah, dommage. Je pensais qu'on allait voir un combat, mais ils ont cette posture, ils prennent cette. Ils ont la classe, ils ont cette pose. Ensuite, il y a une ombre qui sort en jaune ou en rouge d'eux. Et ensuite, ils vont faire. Ils enchaînent leurs attaques. Et donc, ça part dans tous les sens. Il y a plein d'effets qui ont été faits, qui ont été rajoutés comme si c'était du dessin par-dessus les graphismes en cel shading. Et donc, on est vraiment pris. Ah, voilà,
ah, oui.
Par exemple, on voit ça.
Oui, ça a l'air complètement. Donc,
ça a l'air complètement. Complètement. Enfin, barré, mais c'est très bon. Et même les menus, ne serait-ce qu'après les menus dans la sélection du personnage. Enfin, voilà. Là, on vient de gagner un niveau. Enfin, ça va dans tous les sens. Et
mais
c'est très bon.
Elle touche les boundaries en matière de menus.
Les déplacements, il y a de l'infiltration.
Il y a de l'infiltration aujourd'hui, effectivement. Et donc, à chaque fois les personnages se déplacent dans un donjon, par exemple, vous les voyez courir. Il y a une sorte de. Comme de la peinture, en fait, rouge qui sort de leurs pieds. Cette peinture, ça représente le bruit qu'ils font à chaque fois qu'ils se déplacent. Et donc effectivement, il faut faire attention à vouloir se cacher derrière des murs, derrière des caisses, pour pouvoir ensuite aller attaquer par surprise vos adversaires et avoir l'avantage lors des combats. Et donc pourquoi je l'aime. Donc déjà, ces menus, cet univers, ces musiques, parce que les musiques des personnages sont très funky, très groovy.
Parce que tu disais les menus, mais c'est plus l'interface.
L'interface
générale.
Parce que moi, j'avais compris les menus de démarrage, tu vois. Genre,
même les menus.
Moi, j'avais compris les menus du restaurant.
Non, mais c'est l'ensemble.
Le menu démarrage.
C'est la musique, le style du jeu, en fait.
C'est le style du jeu. Ah non, mais c'est la première chose. La première chose qui marque, en fait, c'est les menus. Mais effectivement, dès le push start, effectivement, on a ça. Le menu de démarrage, l'ensemble et la musique. Donc, comme je disais, très groovy. Et finalement, on arrive dans ce Tokyo-là. Et donc...
Il faut, quand on est fan, faut le dire aussi, quand on aime le Japon. Enfin, je veux dire, c'est un point important pour
c'est
apprécier
ça,
les Persona. C'est aimer le Japon, la culture japonaise, le shibuyisme, tout ça.
Alors, quand on aime le Japon, surtout, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir aller au Japon récemment, il n'y a pas longtemps, soit à Shibuya ou ce genre de choses, on retrouve énormément de lieux qui existent réellement, qui ont été retranscrits dans le jeu. Et finalement, le jeu tend de mettre en avant une sorte de... Le Japon d'aujourd'hui, mais les quartiers qui ont été construits dans les années 80-90, en fait. Et on retrouve ce côté un petit peu... rétro, presque sale dans certains endroits. Par exemple, le lieu où se retrouve très souvent le personnage, le héros du jeu, c'est dans un vieux café qui fait un petit peu bistrot, où on vous sert un petit curry, des tasses de café qui sont sales, on sait pas trop, mais bon, c'est pas trop grave. Et il y a toute cette vibes très presque un hipster même, clairement, parce que quand on le voit en plus avec son gros, comment ça s'appelle, son turtleneck et tout ça. Mais voilà.
Son col roulé,
effectivement. Merci beaucoup, monsieur. Mais voilà, donc effectivement, ne serait-ce que pour l'ambiance, déjà, on a envie de voir ce qui se passe et de suivre, suivre l'histoire de ce héros. Et finalement, en fait, là dans ce Persona 5, le but du jeu, ça va être réellement de se battre contre tous ces démons qui vont essayer de prendre possession du corps de vos ennemis. Donc c'est ça. Là, vous avez l'air un peu perdu là. Je vous vois
mais alors, on te suit avec attention.
Parle-nous du jeu, du gameplay. Comment ça se passe? C'est un RPG traditionnel ou il y a des spécificités?
C'est effectivement un RPG traditionnel au tour par tour. Tour par tour. Après, les combats s'enchaînent très rapidement. Et il y a donc ces personnages qui se battent avec vous. Et ce qui est assez sympathique et ce qu'ils avaient ajouté qu'il n'y avait pas avant, c'est que maintenant, si vous voulez pouvoir les attraper, un petit peu comme dans un Pokémon, et bien là, justement, il va falloir négocier. Leur capture. Et donc, si vous êtes capable de leur faire comprendre, tiens, moi je suis quelqu'un de fort, viens avec moi. S'il y a un personnage qui va répondre à ça, à votre virilité quelque part, à votre force, et ben oui, il va venir vous suivre. Au contraire, d'autres vont plutôt faire les soudoyer, leur donner de l'argent, leur murmurer des petits.
Et donc, tu peux modifier ton équipe en permanence en fonction de tes captures.
Okay. Exactement, on peut modifier l'équipe en permanence en fonction de ces captures-là. Et donc, ça vous permet à chaque fois d'adapter justement vos formations, donc aussi bien en fonction de vos personnages, mais aussi en fonction des liens que vous allez pouvoir créer donc avec toute votre équipe.
C'est une sorte de monde ouvert là, on voyait des séquences.
Effectivement, c'est un monde ouvert au début du jeu, donc l'introduction du jeu qui dure quand même facilement 6 à 10. À 8 heures même.
De quoi, l'intro?
Oui, l'intro. c'est un personnage.
Parce que c'est du JRPG à l'ancienne, c'est 90 heures de finir,
là, vraiment,
plus.
Pour être honnête, j'en suis à 15 heures de jeu, j'en suis au deuxième donjon. Alors, je pense qu'il y en a encore plus et je crois que ça va facilement jusqu'à 60-70 heures. Donc, ça va aller très très loin. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais effectivement, au début, il vous indique où aller, mais au fur et à mesure du jeu, de toute manière, il y a donc cette vie dans les donjons, mais aussi la vie à l'école. Et donc, il faut aller en cours. Il faut aussi réviser. Donc, si jamais, mais si vous ne révisez pas, si vous
c'est
révisez,
quoi, ça c'est des mini-jeux pas... dans le jeu.
Ce sont
les
certains des mini-jeux, d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, si vous faites du sport, maintenant, ce sont des mini-jeux. Vous pouvez aller faire un petit peu de baseball. Vous pouvez aussi aller vous balader. Donc, vous pouvez aller sortir. Et donc, il faut organiser en fait. C'est là où c'est extrêmement intéressant. Il faut organiser toute votre vie de lycéen. Donc le jour, pour améliorer, donc comme vous expliquez, toutes ces relations-là, et ensuite aller faire vos donjons. Mais il faut faire attention, parce que vous faites par exemple trop de combats, ou trop enfin, si vous allez trop faire du leveling, et ben c'est-à-dire que...
La journée vous êtes épuisée.
Voilà, la journée était épuisée, tu vas peut-être avoir de mauvaises notes en cours, bah, finalement, cette fille que tu convoitais, ben non, elle sortira pas avec toi. Il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention continuellement.
Donc c'est un jeu de gestion en plus d'être un RPG,
exactement.
Quoi.
Exactement, et on est complètement happé, en fait, dans cet univers-là. J'ai l'impression d'être revenu au lycée en fait avec tout ce côté les gossips qu'il peut avoir, faire attention à être en cours au bon moment, retrouver ses amis, enfin c'est fou.
Complet, c'est agréable à jouer, il y a plein d'à côté.
C'est complet, agréable
c'est
à jouer,
aussi
il y a énormément d'à côté,
c'est
toujours
beau,
aussi fou.
Et ça a l'air joli,
extrêmement
ouais.
beau.
Ça a l'air magnifique. Ouais.
C'est extrêmement beau. En plus, sachant que c'est un jeu qui tourne également sur PS3 et donc il a été légèrement downgradé pour pouvoir continuer à tourner sur PS3. Mais les combats sur PS4 sont extrêmement beaux.
Et le système de combat, alors justement, il est cool ou...
Comme j'expliquais, c'était du tour par tour. Après, c'est vrai que c'est assez classique finalement sur le système de combat. C'est du tour par tour où vous allez avoir des sorts avec plusieurs types. Feu, glace, foudre. Donc c'est vraiment très classique pour le coup dans les Persona.
Ouais.
Et le but en fait, ça va être de trouver la faiblesse du Persona adverse.
Ouais, c'est assez classique à ce
niveau-là. Très classique. En fait, mais la particularité des Persona, c'est qu'une fois que vous avez trouvé cette faiblesse-là, vous allez obtenir, ils appellent ça un one more, un coup supplémentaire tout simplement. Et vous pouvez enchaîner, en fait. Le but, ça va être ça, de trouver la faiblesse d'un adversaire et d'enchaîner les coups pour qu'il ne puisse pas attaquer et faire même ce qu'on appelle des hold-up. Et donc là, ça fait une sorte de super attaque, enfin très stylée en plus visuellement, très agréable. Et donc voilà, le but c'est d'enchaîner ça. Mais il faut faire attention parce que les personnes adverses sont aussi capables de faire des hold-up, enfin sur vous, tout simplement. Et donc le jeu n'est pas trop compliqué quand même, enfin moins que les anciens Persona qui pour le coup étaient très durs, parce que si jamais par exemple un ennemi vous faisait un hold-up sur vous, c'était terminé. Enfin, clairement, c'était game over. Tandis que là, non, le jeu est quand même un peu plus permissif.
Alors si on doit résumer en 5 mots.
En 5 mots pour Persona.
Ouais.
Enfin.
Bon,
je l'adore, je l'adore, il est magnifique.
Non, mais après, tu vois ses qualités, justement.
Non, ses qualités, donc un excellent JRPG. J'ai pas parlé beaucoup de l'histoire, mais exprès, surtout dans les personnages, parce que c'est ce qui reste très central, donc je pense que là, je vais plutôt vous laisser la découvrir. Mais vous verrez, là, en plus, on se retrouve un peu dans un univers presque à la True Detective. Enfin, j'en dis pas plus, mais vous verrez. On peut citer True Detective et Persona, ne serait-ce que pour ça c'est bon. Une musique excellente, une interface magnifique.
Musique, c'est quel style? C'est
J-pop justement. Non, mais pas du tout. Là on se retrouve dans quelque chose de très groovy. C'est vraiment presque de la funk en fait. Et c'est
sympa,
ça qui est excellent. Ouais. On dirait pas qu'on regarde des images comme ça ou dans un jeu de J-pop, mais
tu t'attends à des voix très aiguës de jeunes filles qui chantent là.
Alors bon, les voix très aiguës de jeunes filles, ben vous les avez effectivement.
Non, non, je parlais dans les musiques.
Dans les musiques, non, c'est de la funk et on imagine sans problème la femme noire avec sa grosse afro qui chante, les coups de basse, on les entend slapper pendant les parties et c'est ça qui est excellent. Dans un JRPG, d'entendre ce genre de choses avec tout ce style et tout cet habillage autour. On a juste pas envie de décrocher.
Là, je vais pas mentir, déjà je l'avais dans le coin de l'œil ce jeu et là avec tout ce que tu en dis ça me donne énormément.
Alors, il faut quand même préciser pour tous ceux qui nous écoutent parce que je crois qu'on l'a pas dit, c'est si on en parle aujourd'hui de Persona 5 c'est parce qu'il est sorti au Japon.
Absolument.
Donc, en version japonaise, Rudy parlant japonais peut suivre le scénario, voilà. Etc.
Sorti le 15 septembre dernier sur PS4.
Il est sorti le 15 septembre dernier sur PS4 et sortira le 14 février en Europe.
Donc voilà, ça c'est quand même très rapide, c'est une bonne nouvelle. Ça arrive
mais par contre,
février,
il y a un détail qu'il faut préciser, c'est que ça sort chez nous donc au début d'année prochaine, sous-titres anglais uniquement.
Ah ouais,
donc,
ça.
Si vous ne parlez pas un mot d'anglais, ça va être compliqué.
Alors
pour
non, vous. Et je dirais même plus, même si vous avez un petit niveau d'anglais, ne l'essayez pas. Ce sont des jeux quand même. Enfin, il faut être honnête, ce sont des jeux où il y a beaucoup de texte. Et là, ce Persona 5, en plus, il y a encore moins de, de voice-over qu'avant. Et donc, c'est beaucoup...
Moins de doublage, donc.
Voilà, moins de doublage. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Et donc,
ah, c'est dommage, ça.
Ah, bah oui. Et donc, il y a énormément de texte à lire. Énormément de texte. Donc, et... en japonais, ça va, déjà.
Mais est-ce que le jeu est verbeux, pour autant? Parce que moi, s'il y a un truc qui m'a éloigné des RPG japonais, c'est ce côté, putain, mais super relou, où le jeu te prend pour un con, on t'explique 15 fois la même chose dans des lignes et des lignes de texte, et parfois, c'est niais, etc. Moi, j'aime ni ces deux choses-là, quoi. Trop niais et trop à répéter des trucs qui sont évidents. Pour te prendre par la main et machin. Est-ce que Persona fait partie de cette
Le jeu est verbeux. Il n'est pas niais. Mais il est verbeux et encore une fois, dans l'introduction, oui, il te prend par la main. Et donc, c'est vrai qu'il va falloir...
15 heures.
Non, pas 15 heures, mais il y aura quand même 6 à 8 heures de jeu où effectivement, on a envie
de l'envie de
pousser un peu plus loin. Ensuite, après, c'est vrai que moi, j'ai cette appétence en plus avec les Persona, donc ça ne me dérange pas. Et c'est du RPG japonais, donc on a cette habitude-là, mais effectivement, on a envie de...
Mauvaise habitude, je trouve.
C'est une mauvaise habitude, mais tu verras qu'une fois arrivé à un certain point du jeu, ce sera plus un problème. Et de toute manière, toutes ces relations, tout cet univers dans lequel tu baignes, tu le vis énormément via les textes, via ces interactions-là, donc qui passent par du texte. Ce qui rappelle
même le texte,
certains
des dialogues, etc. Oui, si les dialogues sont intéressants et que c'est pas, ils sont
toi,
pas
c'est
là pour
le tuto,
rien.
En fait, qui t'emmerde.
Moi,
ça
ce qui m'énerve, c'est quand quand c'est trop long, t'as compris un truc, on te le réexplique 15 fois. Un tutoriel pour chaque truc alors que le machin est évident.
Non, ça va, le jeu n'est pas comme ça. C'est encore une fois légèrement lors du premier donjon, mais maintenant j'ai plus ce problème là. Donc je peux comprendre, ça rebutera certaines personnes, mais soyez patient et vous verrez que très rapidement.
Donc déjà en l'état, pour toi, c'est un potentiel jeu de l'année.
C'est oui, ben, pour moi, c'est mon jeu de l'année.
Ah ouais,
donc,
déjà, attends d'avoir joué à Final Fantasy XV parce que tu vas quand même y jouer.
Oui, parce que
non, bien sûr, je vais jouer à Final Fantasy XV, mais là, quand
il a l'air extraordinaire à Final Fantasy XV pour
extraordinaire.
Le coup.
Ah non, je dis pas le contraire. Encore une fois, je ne dis pas le contraire.
Mais ce qui est bien, c'est que c'est très très différent là.
Ah mais c'est deux univers qui n'ont absolument rien à voir. D'un côté on a un JRPG au tour par tour, l'autre on a justement un jeu d'action même, clairement un RPG donc...
Persona c'est plus à l'ancienne, c'est plus du RPG à l'ancienne en termes de fonctionnement par rapport à Final Fantasy XV.
Oui et non, bah oui sur la partie JRPG, mais enfin sur la partie JRPG, mais une fois que tu mets ça de côté, on est quand même dans des donjons en 2016 où là tu dois avoir ce côté infiltration plus, où en fonction de tes relations tu vas pouvoir améliorer tout. Enfin,
c'est quand même moderne.
Hein. C'est quand même extrêmement
moderne.
Je
parlais surtout au niveau du fonctionnement des combats. Hein, c'était vis-à-vis de ça.
Mais finalement tout l'à côté, je trouve modernise énormément la chose et à aucun moment on s'ennuie en fait. Et donc c'est un truc idiot. Il y a pas de bouton pour accélérer le combat, mais c'est pas grave.
Bah, je vais appuyer sur le bouton pour te dire qu'on va arrêter d'en parler parce que là je pense qu'on a compris le
message. En tout cas il y a un test import qui arrive bientôt.
Voilà, le test import.
Voilà, le temps que Rudy
se calme un petit peu.
Parce que là vous voyez pas trop bien, mais il arrête pas de bouger les jambes depuis tout à l'heure. Il est là, putain, faut que j'en parle.
Faut que je rentre chez moi pour continuer.
Faut que je continue là, laissez-moi. Il a failli se barrer du podcast avant qu'on commence. Putain, laissez-moi jouer.
Non mais bon, il fallait en parler un petit peu.
Bon, tu en as très bien parlé d'ailleurs, et je pense que si vous êtes un joueur d'import et que vous avez envie de craquer sur Persona, normalement, à écouter Rudy, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer.
Le test arrivera
c'est du
très
bon.
Bientôt.
Merci, et bien on va passer au troisième thème de la semaine. Et là, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que ça va dérouiller bébé?
Ça
avec
va dérouiller.
Gears of War 4, qui sort lui le 11 octobre sur PC et Xbox One. Romain, tu as fait le test et ça y est, tu peux nous dire, est-ce que The Coalition a réussi à prendre la suite d'Epic?
Totalement.
Ah.
Totalement, et je pense même qu'on peut dire qu'ils ont fait mieux qu'Epic sur Gears 3 par exemple. Moi Gears je trouvais qu'il souffrait d'un gros problème de rythme. Il y avait des grosses séquences où je m'ennuyais
dans le 3
oui. Et là dans Gears of War 4 j'ai pas du tout eu ce problème à aucun moment. Et tu vois aussi j'ai toujours beaucoup aimé la réal de Gears, j'ai toujours beaucoup aimé le gameplay, mais le côté Space Marine genre ça va dérouiller bébé et trucs comme ça, ça a jamais été ce que je préférais dans la série.
Et là, dans le 2 avec la réal, c'était génial.
Non, franchement,
on va lui éclater les veines du cul.
On va lui retirer les veines du cul. Ça, c'était génial. Enfin, c'est un truc de bourrin.
C'est pas mal. Dans le 2, je crois que c'était particulièrement abusé. C'était bien.
Mais ça a jamais été ce que je préférais dans Gears, tu vois. Et là, comme tu. Et alors après, là, c'est vraiment mon avis purement personnel, parce que je sais que des gens adorent ça. Moi, le fait que tu incarnes une équipe de soldats plus jeunes qui n'ont pas connu tous les événements racontés dans les trois premiers Gears, c'était juste dans les livres d'histoire, tu vois. Ils se sont jamais retrouvés dans un conflit de ce type. Donc ils découvrent, ils sont un peu plus subtils, ils font des traits d'humour plus fins. En termes de
Tiens, choisis un doigt. Ok, attends, bouge pas.
Non, mais en manière, dans la façon de s'exprimer des héros, je préfère les nouveaux que les anciens. Même si, évidemment, tu es amené à croiser des anciens, mm-hmm. et t'es accompagné.
Ah, t'as l'idée. Moi, je savais pour un seul d'entre
non,
eux.
Non, parce que dans un des trailers, tu vois Cole.
Ah.
Tu vois Coltrane.
Mais Coltrane, en vieux ou?
Bah oui, en vieux.
Ah, je l'avais pas vu.
Et donc oui, Marcus qui lui est très mis en avant dans les trailers, qui est avec toi pendant une longue partie du jeu. Mm. Donc t'as quand même ce lien en permanence avec le Gears à l'ancienne. T'as une dualité dans les tons en fait. T'as la relève et l'ancienne génération qui est là malgré tout. Mm. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans mon texte. Je trouve que c'est assez malin parce que The Coalition, on va dire en termes de scénario, se laisse plusieurs chemins. Genre, je pense qu'ils vont voir comment les gens réagissent aux nouveaux persos. Pour déterminer ce qu'ils feront dans Gears 5, est-ce qu'on reste avec les jeunes et on va plus loin avec eux, ou est-ce qu'on donne, est-ce qu'on remet les Expendables, est-ce qu'on met les Expendables en avant? En tout cas, il y en a. Oui,
enfin, là, au bout d'un moment, ils prennent de l'âge aussi, Marcus. Et l'autre, si c'est pour aller faire la guerre en.
Joue à Gears of War 4.
En déambulateur avec une poche à piste, c'est quand même pas très.
Joue à Gears of War 4 et tu verras, ils vont plutôt bien.
D'accord. On n'en dit pas trop pour pas spoiler.
On n'en dit pas trop. Et donc, ouais, le gameplay, c'est toujours top. Ils ont ajouté des choses en plus, tu sais, parce que quand tu veux, tu prends un gameplay qui fonctionne bien et que tu essayes d'ajouter des trucs, des fois les gens vont se dire
t'en fais trop,
tu dénatures l'expérience. Ouais. Alors que là, ce qu'ils ont ajouté, ça colle parfaitement. Par exemple, le cover shooter. C'est un peu Gears qui lui a donné ses nettes de noblesse, tu vois.
Bah, c'est lui qui l'a presque créé dans sa forme actuelle.
Et là, il est de retour et il est encore plus sophistiqué. Par exemple, si t'es adossé à un petit muret comme tu es là et qu'un ennemi vient s'adosser au même muret mais de l'autre côté,
tu peux l'attraper
en appuyant sur bleu. Tu peux
bleu
prendre
sur c'est la première fois que j'entends ça.
X.
C'est la
oui, mais moi les touches Xbox, je les associe aux couleurs en fait. Tu vas aller le choper, le ramener de ton côté et là il va être étourdi pendant.
Et sur le Simon, c'est haut, bas, gauche et droite ou t'as retenu les couleurs?
Je me souviens plus des couleurs du Simon.
Ouais. Pardon.
Et donc oui, tu peux le ramener, enfin, il va être étourdi et là tu peux l'achever. Mais c'est un risque parce que si tu times mal ton truc ou qu'il est genre un peu trop sur le côté, là tu vas le choper dans le vide et là tu t'exposes complètement à une contre-attaque.
D'accord.
Et en plus, l'IA fait que l'adversaire n'hésitera pas à le faire sur toi, genre à te ramener de son côté pour te tronçonner. Et après là, il faut vraiment timer ton esquive ou un truc. Donc ça, c'est de nouveaux éléments qui sont bien pensés. En plus, t'as des cocons ennemis. Quand certains sont accrochés au plafond, tu peux tirer dessus pour les faire tomber et donc te créer une couverture supplémentaire. Mais le risque, c'est que si l'ennemi ou toi tirez sur ce cocon, il y a un ennemi qui peut en sortir, tu vois.
Mais alors justement, pour parler des ennemis, parce que c'est quand même le moment où il y a deux races maintenant qui sont introduites, deux nouvelles races, dont la première qui s'appelle The Swarm. Ouais.
En français, c'est la nuée,
les saints. Ouais. Et l'autre, c'est les DBs. Alors, je vais vous dire les Bee Gees, mais non, c'est les DBs qui sont des robots.
Ouais.
Est-ce que ces deux races s'intègrent bien justement dans l'univers de Gears? Et est-ce que les affrontements face à ces nouveaux ennemis valent au moins ceux des Locusts?
Alors, je t'explique, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'en fait, dans les 25 ans qui ont suivi Gears of War 3, parce que Gears 4 commence 25 ans après, l'humanité s'est scindée en deux groupes. La CGU, la coalition des gouvernements unis, si je me souviens bien.
Moi, je crois que c'est les conditions générales d'utilisation.
La CGU, en fait, qui était l'armée des Gears, a pris le contrôle et a décidé de créer des villes fortifiées pour protéger la population, en fait. Donc, il y a des villes comme ça qui se sont créées, mais il y a certaines franges de la population qui n'ont pas du tout accepté cette sorte de dictature militaire et qui se sont mis en marge de la société pour créer des villages à l'extérieur. Donc, au début du jeu, tu dois rentrer dans une base de la CGU parce qu'en fait, J.D. Phoenix, le fils de Marcus, est un ancien membre de la CGU qui a décidé de quitter. Et donc, lui et deux autres héros décident donc de rentrer dans une ville de la CGU pour récupérer du matériel. Et donc, il se retrouve confronté à ces robots et sont vraiment des robots, quoi. Tu vois, ça fonctionne bien, ça a un comportement différent des Locusts.
Et tu peux les démembrer.
Ah oui, ils s'explosent. Et ce qui est marrant, c'est que genre, si tu en tronçonnes un ou que tu le tues au corps à corps, t'as des taches d'huile qui vont venir sur le HUD, enfin sur l'écran.
Le sang, j'aime bien, mais alors l'huile, là, par contre, je suis choqué.
Des grosses taches d'huile. Et pour le coup, les robots, dans leur manière de se mouvoir, etc., ça m'a un peu fait penser à Binary Domain. Alors, c'est marrant parce que c'est un jeu qu'on prend rarement en référence,
oui, c'est très
mais
bien.
Dans lequel tu affrontais beaucoup de robots. Mm. Et ça m'a un peu fait penser à ça. Donc oui, les robots, c'est rigolo, mais ça reste, c'est pas eux que tu affrontes le plus dans le jeu.
D'accord. Moi, il y a un élément aussi qui me fait un peu tiquer, c'est qu'il y a que 3 personnages. On peut le voir dans la campagne solo. On peut jouer en coop, j'imagine.
À 3, ouais.
Et c'est 3 maximum, donc c'est pas 4.
C'est pas 4.
Non, c'est 3 parce que le quatrième personnage, enfin, il y a certaines scènes où tu es 3, ouais. Et il y en a pas mal d'autres où tu es 4, et le quatrième personnage, c'est un PNJ. Mais t'as un clin d'œil à Carmine.
Il fallait que je sache, voilà, merci.
T'as un clin d'œil à Carmine qui arrive assez tôt dans la campagne. Donc c'est campagne à 3 avec un quatrième perso
mais
qui est.
Pourquoi ce choix de 3 joueurs en fait? On a toujours l'habitude d'être à 4 pour le coup.
C'est la question que je me posais. Alors c'est peut-être pour favoriser la technique, tu sais, comme ils ont décidé de laisser l'écran splitté, parce que quand Halo 5 est sorti, qu'il n'y avait pas le split, scandale mondial, à juste titre. Donc là, The Coalition pour Gears, ils ont fait, bon, on va pas faire la même erreur, donc on va proposer du split, mais comme tu veux faire du split, mais tout en proposant quand même un jeu qui est beau, tu as peut-être des concessions à faire ce niveau-là. Mais surtout que, je te dis, le quatrième personnage est là, c'est juste que c'est l'IA, et en fait, il sert à faire avancer l'histoire, en fait, à différents moments.
Tu disais, faut que le jeu reste beau, justement, la réalisation, alors on est plusieurs à être passé devant l'écran pendant que tu jouais de la version Xbox One, c'est vraiment à la hauteur de ce que Epic a pu produire avec les 3 premiers.
C'est ce que je disais dans mon test, c'est beau. Il y a aucun moment où le jeu est moche, c'est juste à aucune séquence t'es là waouh, quand même. Alors que moi, je me souviendrai toujours de ma réaction au premier Gears quand je l'ai vu et que je l'ai pris en main la première fois. Je me suis pris une baffe, mais monumentale. Là, visuellement, j'ai jamais ça dans Gears 4. Les cinématiques sont très belles. Tu vois, par exemple, Marcus, pendant les cinématiques, il est super beau, il est super bien modélisé, mais c'est pas comme ça dans les phases, de jeu. Par contre,
c'est le cas pour Mafia aussi, d'ailleurs. Les visages sont ouf, mais
tu vois, là, il est dingue, Marcus, avec tu vois, les poils de barbe et tout, bien séparés et tout.
Il a de quoi être bien. Parce qu'il est vénère là, son plan de tomate est en train de partir en fumée.
Il le dit dans la campagne, mais tomate quand t'es dans sa serre et que tu défonces tout. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, par contre, un élément de la réalisation que moi j'ai beaucoup aimé, c'est la gestion du vent, la gestion des particules, des effets de lumière. Ça, il y a eu un gros travail qui a été effectué.
Mais on nous l'a vendu presque comme une fonctionnalité de gameplay, le vent.
C'en est une, clairement. Déjà, il y a des scènes de tempête où tu marches à contrevent. Et si tu arrêtes de jouer, que tu poses la manette, ton personnage va reculer. Donc, faut vraiment pousser pour
lutter contre l'élément.
Voilà, lutter contre le vent. Si tu fais une scène de gunfight pendant une tempête et que tu désingues un ennemi, tu as son corps qui va voler vers toi, en fait, ou vers le côté si le vent est un vent latéral.
Et ça affecte tes munitions, tes balles.
Ah oui, les grenades, par exemple. Le nombre de grenades que j'ai gâchées, parce que réflexe.
Tu reviens en pleine gueule.
Non, c'est complètement ça. Tu jettes ta grenade, si le vent vient vers toi, la grenade, elle revient vers toi. Si c'est de côté, tu vas balancer ta grenade sur le côté. Donc faut tenir compte de ça. Et tu sais, souvent dans les jeux vidéo, quand il y a du vent, t'as juste un drapeau qui vole au vent, tout. Là, vous le voyez dans la vidéo, c'est beaucoup plus que ça. Et il y a des éléments du décor qui sont maintenus par des petites barrières. Si vous tirer sur les barrières, et ça fait partir tout ce truc, et ça peut vous servir.
C'est en tout cas désinguer un ennemi. Visuellement, c'est joli, et puis
c'est impressionnant.
Dans le feu de l'action, ça doit être sympa. Quoi.
C'est super plaisant en termes de sensation, et c'est assez nouveau, quoi, parce que c'est vraiment des grosses. Enfin, tu vois, c'est vraiment une grosse tempête. Alors, après, il y a les scènes aussi où tu dois éviter les éclairs, mais ça c'est peut-être moins saisissant que le vent.
Et à l'inverse, les ennemis sont capables justement de prendre, l'avantage comme ça du décor et de tirer, par exemple, pour que tu aies une grosse pierre comme il y a. Harry qui arrive sur toi.
C'est une bonne question et ça je l'ai pas noté pendant les combats en phase de tempête. Les ennemis gardaient une attitude normale,
posée. Mais leur IA est correcte.
Je te dis, l'IA est bonne. Ouais. Si t'es en train de tirer sur un ennemi, et qu'il voit que tu l'as dans sa ligne de mire. Enfin, qu'il est dans ta ligne de mire plutôt, il va se
planquer autrement.
Il va changer de couverture. S'ils voient que t'es à proximité, ils vont venir. Ils hésiteront pas à venir te choper, à essayer de te tronçonner ou des trucs comme ça. Donc oui, l'IA dans Gears a toujours été bonne et là elle est toujours bonne. Mais c'est vrai que par contre ils utilisent, de mémoire, ils utilisent pas trop le vent comme outil.
Donc campagne vraiment cool.
Ouais, et elle va crescendo. La fin. Déjà, il y a des super boss fights, dont un ennemi qui est ultra relou, mais il est relou quand tu joues avec l'IA. Ça ira un peu mieux quand tu joueras avec des personnages, enfin des joueurs humains. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais ouais, de super boss fights. Ils ont ajouté des petits côtés du mode horde à différents moments.
Justement,
de la campagne.
J'allais te dire, tu parlais de contrevente tout à l'heure. Moi, j'ai envie de parler un peu de la horde, justement. C'est la horde 3.0, c'est ouais. ça. Qu'est-ce qu'ils ils ont ajouté des nouvelles possibilités.
Alors, déjà, t'as des classes. Ouais. Maintenant, tu peux, en fonction de ta manière de jouer, tu peux incarner une classe qui aura des facilités. Par exemple, moi j'aime beaucoup, moi je suis le joueur lambda, j'aime bien les capacités du soldat de base. Donc si tu fais des kills au shotgun par exemple ou à la tronçonneuse, et ben ça te fera gagner de l'expérience supplémentaire. T'as aussi des fortifications, mais ça c'est pas nouveau dans Gears hein. tu peux entre deux rounds ajouter des barbelés, mettre des tourelles, placer des leurres, etc. Et tout ça, c'est lié en fait au crédit que tu gagnes. En tuant des ennemis, tu gagnes des crédits. Il faut ensuite aller récupérer ces crédits qui te permettent de fortifier ta zone. Le challenge est super relevé dans le mode horde. J'ai vraiment passé un super moment sur ce mode. En plus, les maps sont plutôt jolies. Tu vois, quand il y avait eu la bêta de Gears 4 il y a plutôt cette année, l'impression que j'avais eue, c'était... bah mince, c'est pas beau quoi.
Ouais. Et là ça, il avait aussi
oui. Mais en fait quand,
expliqué
tu
en
sais
fait.
Comme les bêtas en fait c'est le terme est souvent galvaudé, c'est presque devenu des démos en fait, des démos qui te font passer pour des bêtas. Ce que tu vas voir dans la bêta entre guillemets, bah ça
date de 3 mois avant,
voilà, ça changera pas grand chose sur le jeu final. Gears 4 c'est pas du tout ça. Genre il y a vraiment eu un gros travail entre la bêta et le jeu final. Déjà la première partie multijoueur que j'ai fait là sur le jeu complet, j'ai été super impressionné par le visuel. Genre c'était mais genre 5 fois plus beau que ce que j'avais vu pendant la bêta. En plus, le multi est en 60 images par seconde, et ça, alors que la campagne est en 30, et le mode horde est en 30 aussi. Donc le multi compétitif est en 60, et il est super stable. Il est beau et stable.
C'est pas étonnant parce qu'il y a une vraie volonté de la part des développeurs. Je vous invite à lire l'interview des développeurs justement sur Gameblog. Une vraie volonté e-sport pour cet épisode, et les nouveaux modes de multijoueurs sont là pour ça.
D'où les classes donc.
Les classes et puis le 60 images seconde, quitte à baisser un peu peut-être le niveau des graphismes, j'en sais rien.
En fait, ils ont une résolution dynamique. C'est le
nouveau truc à la mode.
Le multi est normalement 1080p 60 images par seconde, mais en fonction des zones, quand le jeu le nécessite, bah ça, ils adaptent la
résolution pour garder les 60 images seconde.
Voilà, et c'est très très stable. J'ai pas vu de baisse. C'est vraiment super pour le coup, passer de la campagne au multi et jouer en 60 images par seconde, c'est super plaisant quoi. C'est vraiment très agréable. Le multi est dynamique, les nouvelles armes fonctionnent bien. Franchement, c'est une belle réussite, à tous les niveaux.
Donc The Collision a bien fait son taf.
La nouvelle arme avec les disques là, c'est bien finalement ou pas ça?
Bah ça c'est chouette. Alors j'avoue que moi quand je l'ai utilisé, j'ai pas pris trop le temps de gérer mes rebonds, etc. Mais si
parce que tu fais du billard quoi. Avec...
Ouais, voilà, tu peux tirer sur les environnements et ça va faire des rebonds, et tu peux avec un seul disque tuer plusieurs ennemis par exemple.
Avoir un mec qui est en couverture justement.
Ouais, j'ai réussi à avoir 3 ennemis avec un seul disque. Alors c'est après rigolo. Le reste du temps
et ça les découvre vraiment en plus.
J'ai tiré comme un bourrin et je faisais pas trop gaffe, mais ouais, ça c'est super cool. Et vous avez aussi le drop shot qui est une sorte de d'arme qui envoie un forêt quoi, une grosse vis, et en fait tu tires mais il faut maintenir la gâchette appuyée jusqu'à ce que tu veux que l'arme tombe, enfin la munition tombe en fait, parce que si t'arrives, c'est représenté par un laser bleu, si tu arrives à lâcher la gâchette au-dessus d'un ennemi, t'as le forêt qui va lui tomber sur la tronche et complètement exploser sa tête. C'est pas forcément une arme super facile à maîtriser, mais l'effet est super super bien rendu quoi.
Une arme subtile,
ouais, voilà. À la Gears quoi. Et ouais, donc aussi ce que j'ai oublié de dire dans la campagne, c'est qu'ils ont ajouté des séquences un peu exceptionnelles, tu vois, genre t'as une échappée en moto, un moment t'as une scène où tu dois remonter à la surface mais un ascenseur gigantesque est pété, donc tu dois tirer sur la fixation d'un câble et t'accrocher un gros câble métallique et remonter. C'est une scène où tu dois en fait tirer sur les décors qui te gênent, éviter les obstacles, etc. Et t'as aussi une scène, une grosse scène en méca et tout. Enfin, c'est y a de la variété, c'est rythmé.
C'est assez concentré sur la fin. J'ai entendu dire que la fin, enfin les dernières missions étaient totalement épiques, crescendo.
La fin épique, mais la moto, ça arrive assez vite dans le jeu. C'est, en fait, c'est, on va dire, un tiers, deux tiers et la, à la fin, tu vois, c'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe.
Donc tu confirmes l'apothéose à la fin avec vraiment une
le dernier acte est super. Enfin franchement, les séquences de gameplay sont variées, c'est impressionnant, c'est plaisant à jouer. Enfin franchement, ouais.
Et ça augure d'un 5, donc tu.
Ah bah je pense qu'ils ont pas fini, oui. Je pense. Bah, en fait, c'est marrant ça parce que ça s'appelle Gears of War 4. Mm-hmm. Mais t'as limite l'impression que c'est une transition entre la première trilogie et la deuxième. En fait, tu vois.
Et si t'as pas joué d'ailleurs à la première trilogie, si tu débarques là, c'est
oui, parce
tu
que
perds
le début, le début, c'est un flashback. Enfin, la première mission, c'est un flashback. Donc, il te rappelle un peu le contexte et même les dialogues entre les personnages rappellent qu'il y a eu une guerre. C'est un jeu qui creuse énormément la mythologie de Gears.
Et en même temps, si t'achètes le jeu dans je sais plus quelle édition, t'as de toute façon les trois premiers gratos parce qu'avec la rétrocompatibilité, tu les télécharges et tu peux jouer aux trois premiers.
Tu peux obtenir les
ça,
trois premiers.
Ça c'est pas
mal. Mais malgré tout, même si tu joues pas aux trois premiers, t'as suffisamment de rappels et d'explications données in-game pour comprendre de quoi il est question. Et
c'est pas
si
comme si
certains,
par exemple les tomates là dont vous avez parlé, moi j'ai rien compris.
C'est un détail parce qu'à un moment en fait les trois héros vont chez Marcus pour demander son aide.
Voilà.
Et ensuite il faut quitter le
domaine.
Pas,
c'était pas un rappel par rapport à un
c'est un truc qui est purement dans
cet
épisode.
Le scénario des Gears of War n'est pas le plus compliqué non plus.
Non, voilà, c'est pour ça
qu'ils vont faire un film, donc
c'est assez facile à suivre, faut pas
se leurrer. Moi j'aime bien, on parlait justement du film avec Romain à la rédac, on se disait qu'est-ce qu'ils vont faire, ça va être pourri, etc. Mais moi je trouve que il y a une vraie identité, quoi. Cet univers, il a son identité, quoi.
Si tu fais un délire à la Expendables assumé,
je pense que ça peut être sympa, un film Gears of War, en fait.
Ah, bah complètement, ouais.
Un peu second degré.
Avec
tout,
des mecs qui parlent comme des chartiers
en permanence.
Ça peut être drôle,
en plus, ouais. Ils peuvent faire un côté humoristique dans le...
Moi, j'aimerais bien The Rock dedans. Mais bon, c'est juste pour la carrure.
Si le premier degré, bon.
Ouais, premier degré.
Tu as effectivement plusieurs catcheurs qui pourraient correspondre au casting de Gears of War, le film.
On avait fait notre casting, on avait dit The Rock.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on avait dit encore ?
Moi, je verrais bien Goldberg. Hein.
Ouais, Goldberg.
Goldberg.
Ah, c'est un catcheur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une masse.
Oui,
qui est
monstrueux. On a vu la photo à côté de toi.
Un petit Vin Diesel.
Le problème de Vin Diesel, c'est qu'il est petit.
Ouais, Vin Diesel,
ouais,
c'est même,
ça,
il fait pas
1m80.
Donc, voilà. Bon. Parce que même si c'est pas spécialement petit, hein, c'est juste pas grand.
Non, mais The Rock, il fait genre 1m96, 150 kilos, donc oui, effectivement.
Bah voilà, puis on met Shaquille O'Neal en dernier. Et je pense que...
Shaquille O'Neal en Coltrane.
Shaquille O'Neal en Coltrane, attends.
Ça serait dérouillé.
Bah ouais, ça serait pas mal. Bon, mais pas Kevin Hart, évidemment, parce que là, on parlait des gens petits, là, c'est là où on évite.
Et donc, juste pour dire, parce que certaines personnes vont peut-être trouver que la nuée, The Swarm, qu'en termes de design, ils sont pas forcément originaux.
Ce qui est pas faux.
Bah, oui,
ça s'explique. Ça s'explique dans la campagne. Donc vous verrez, si vous jouez à Gears 4, vous comprendrez le pourquoi du comment.
Très bien. Bon,
mais teasing,
t'as l'air emballé.
Ouais, j'ai passé un super moment. J'ai envie de
jouer. Pouvoir jouer bientôt.
C'est 8 sur 10 indispensable.
Ouais.
Quand on a Xbox One, il faut y jouer.
Il faut y aller. Et si vous avez une Xbox One S et un écran compatible HDR, sur les effets de tempête justement, les orages, tout ça, ça ressort encore plus.
Apparemment, le HDR apporte beaucoup à Gears of War 4.
Et PC 4K,
qui pourrait vous donner un avis sur la question.
Bon, en tout cas, c'était très instructif concernant Gears of War, donc qui sort le 11 octobre sur Xbox One et PC. Et puis, bah, messieurs. Ainsi va ce podcast, c'est fini. Et oui,
déjà
on a terminé. Bah ouais, ça y est.
Oh là là,
du lourd cette semaine en jeu.
Ah bah là, c'est au niveau jeu, c'était.
On a pas vu le temps passer.
C'était monstrueux. Bah évidemment, je vais vous remercier comme d'habitude, Julo, Romain, Rudy et Poufi à la sono. Merci pour la réalisation de ce podcast. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on attend vos commentaires là juste en dessous dans le forum lié à cette news. N'hésitez pas si vous avez des remarques à nous faire concernant les jeux dont nous vous avons parlé ou encore le Winelfell ou le point Enix. Hein, on sait jamais, peut-être qu'au moment où on a enregistré, il y a eu l'annonce de la NX. Bon, on dit ça chaque semaine et ça n'arrive jamais. Donc tant pis.
S'il l'annonçait jamais,
bah c'est possible.
Genre un jour, on va aller dans un magasin, genre tu vas faire tes courses et là, rayon jeu
vidéo.
Tiens,
une NX.
Ou alors on se disait aussi, ils le font à la Apple, ils l'annoncent le jour de la
sortie. C'est disponible, ouais. Ça pourrait être le cas.
Bah, disons que si en mars on n'a toujours pas eu d'annonce et que Nintendo dit ouais, Nintendo Direct cet après-midi, oui, là on pourra comprendre qu'effectivement ça sort en même temps. Et on a de la marge.
Alors, le prochain podcast ne sera peut-être pas forcément la semaine prochaine pour les premiums. Et oui, il faut faire une petite surprise en fait. D'ailleurs, on va sortir un truc. Est-ce que tu peux m'attraper le gros truc qui est juste à côté de toi, Rudy ?
Bien sûr.
Merci. Puisque si vous êtes premium, sachez que le prochain podcast en vidéo sera sur ceci, c'est très subtil, hein. C'est le PlayStation VR que la rédaction a reçu.
Rassurez-vous, c'est pas la boîte que vous trouverez dans le commerce, ouais, ce sera plus
voilà,
petit pour
ça,
vous.
C'est une boîte très spéciale. PlayStation VR qui arrive à la rédaction. Et justement, eh bien, on va vous faire un podcast aux petits oignons sur tout ce qu'on a pu essayer concernant le PlayStation VR. Je pense que Julien, là, il en a pour à peu près 8 heures de podcast à vous expliquer à quel point ça a changé sa vie, à quel point la réalité virtuelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je pense que derrière, il y aura une musique genre Alléluia ou quelque chose comme ça. Bref, le prochain podcast, ça sera plutôt que prévu pour les premiums. Bah, quant à moi, pour le podcast d'après, j'ai envie de dire, je vous dis à très vite. On se retrouve évidemment pour ce podcast-là qui aura lieu bientôt. D'ici là, portez-vous bien et surtout...
Jouez bien.
Jouez bien. Ciao.
Salut, salut.
Au revoir, messieurs, dames.